pas brillante, votre affaire.
Non, ouais, cette année, ça n'a pas été ça.
L'année dernière non plus.
Non, l'année dernière non plus.
Dans la vie, il y a des années marquantes dans le monde des séries télévisées, et il y a les autres. 2023, quant à elle, a décidé de se distinguer par son caractère singulier, oscillant entre années marquantes et ordinaires. Une année assez sobre qui laisse néanmoins quelques traces dans le sillon de l'histoire des séries. Dans cette rétrospective de l'année, revenons ensemble sur des fins de séries marquantes, des annulations en masse et méritées, et des recommandations. Prépare-toi à revivre les moments forts de l'année 2023 dans le monde des séries télévisées. Nous entamons une nouvelle année. Il est l'heure de se retourner sur l'année passée et d'observer ce qu'elle a pu nous offrir. Comme à l'accoutumée, il y a eu des événements parfois bons et d'autres plus, disons-le, affreux.
C'est affreux. Affreux, 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 affreux.
Ne dérogeant pas à la règle, 2023 nous a réservé son lot de pépites. Certaines étaient aussi brillantes que de l'or et nous ont réservé de bons moments, agréables, parfois magiques ou tout simplement apaisants. Chacun ira de ces instants précieux qui lui ont fait plaisir et qui lui sont marquants d'un point de vue personnel ou professionnel. D'autres pépites se sont avérées moins scintillantes et n'étaient que de vulgaires cailloux.
Oui. Tu es un caillou.
Eh oui, 2023 a eu son lot d'horreurs. Je ne vais pas te faire l'affront de les énumérer, car si tu suis un tant soit peu l'actualité, tu vois bien de quoi je parle. Heureusement, pour contrecarrer cette morosité ambiante, on a toujours cette petite bulle de respiration que sont les séries télévisées. Je sais, il y a bien d'autres choses qui permettent de s'évader et de s'affranchir des affres du quotidien. Chacun ira alors de son bon conseil, que ce soit de la méditation, du sport, de la musique, des sorties entre amis, de la drogue, du sexe, et soyons fous, autant tout faire en même temps, non? Après tout, pourquoi pas, il faut tenter des expériences. Allez, après une petite session de lancer de ton, et oui, ça existe, je te promets, va checker, c'est parti pour s'enfiler quelques rails de coke avant de s'enfiler entre potes, et le tout sur un délicieux morceau de Vulvodynia.
J'espérais que cette nouvelle année serait l'occasion de vous ressaisir et d'arrêter cet insatiable besoin de parler des plaisirs de la chair. C'est regrettable, mais mes prières pour sauver votre âme restent vaines. Je ne perds pas pour autant espoir. La foi me guide et sera trouver le chemin de votre cœur. Paix à votre âme.
Ah, je pense savoir ce qui t'a offusqué, Marie-Constance. J'ai oublié d'intégrer la méditation dans mon exemple. Pourtant, c'est la partie la plus simple. Elle s'insère à n'importe quel moment de l'orgie, avant, pendant ou après. Après tout, c'est à toi de voir ce que tu préfères, petite coquine.
Ok, c'est toi la coquine, d'accord, ok.
Donc revenons à cette bulle de respiration offerte par les séries télévisées dont je parlais un peu plus tôt. Il est à noter que cette fameuse bulle est à protéger et à mettre en lieu sûr, car elle peut être brisée à tout moment si tu as la malencontreuse idée de te rendre sur des réseaux sociaux toxiques ou de suivre des comptes Insta, X ou autres, qui se prennent pour des grands critiques, tu sais là, ces petits influenceurs. Je ne citerai personne, on n'est pas là pour cracher sur les autres. Mais si tu viens me voir en MP, je t'en partagerai peut-être un ou deux. Mais chut, ça reste entre nous.
Mais on est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein.
En attendant, tout le monde n'est pas Alain Carazé. Alors redescendez de votre piédestal en mousse, bande de vils faquins.
Maro, faquin, buteur de pieds plats ridicule.
Je me suis encore égaré, bordel. Donc, en 2023, cette petite bulle a été entachée par une grève importante qui a frappé les États-Unis. Une grève des scénaristes suivie par une grève des comédiens et comédiennes. Une grève absolument justifiée dont je t'ai parlé dans l'épisode 13 de la saison 3 du Son de la Crypte. Les impacts de celle-ci s'en sont ressentis notamment sur les networks américains comme ABC, CBS et NBC, avec une rentrée des séries qui n'a pas eu lieu en septembre. Quant aux autres chaînes et plateformes, la grève a eu un impact avec un retard des productions que l'on a constaté fin 2023 et qui sera flagrant en 2024. Concrètement, la grève aura-t-elle du bon ? Je pense que oui, car elle a permis de faire entendre des voix et d'asseoir le travail important des scénaristes. Personnellement, j'y vois aussi un autre point positif. Elle a aidé à ne pas renouveler des séries de network comme notamment The Rookie Feds. Allez hop, dégage et viens dans la crypte. Je te réserve une belle place dans la tombe des séries de merde.
Allez, viens par ici.
Transition parfaite pour te parler des annulations. 2023 a évidemment été le témoin de pas mal d'annulations. Dans le lot, il y a des évidences. Je pense principalement à The Winchesters, Walker Independence et The Rookie Feds encore elle. Trois séries sur lesquelles j'avais parié une annulation prématurée. Il y a également des séries pour lesquelles on aurait aimé des prolongations, et d'autres pour lesquelles il aurait été grand temps de baisser le rideau. Sans être une année mémorable sur tous ces aspects, 2023 mérite qu'on s'attarde sur certains faits marquants. Alors, c'est parti.
Non, pas elle, pas elle, non.
Pour le premier chapitre, nous allons voir les fins de séries marquantes de l'année. Pour certains, et certaines, ce sera Fear the Walking Dead, pour d'autres, ce sera The Crown, ou encore pour d'autres, ce sera Mayans MC, qui marqueront de leur empreinte l'année 2023. Ces séries, qu'on les aime ou non, on sera tous d'accord sur cette simple vérité. Elles ont marqué le cours de l'histoire des séries télé. De par leur longévité, ou de par la fanbase qu'elles ont pu construire autour d'elles, elles peuvent être érigées au rang de séries cultes, ou semi-cultes si tu veux. Évidemment, une série culte est par principe très subjective. Tu pourras trouver sur les internets des listes des plus grandes séries cultes de tous les temps. Et tu as d'ailleurs un abécédaire des séries cultes que tu peux retrouver sur le site de la crypte et bien entendu dans le podcast Leçon de la crypte. Il y a assurément des consensus sur certaines œuvres télévisuelles. Mais soyons honnêtes deux secondes. Ce n'est pas parce que Jean-Michel, Télé 3 semaines, rédac en chef de n'importe quel magazine à deux balles, a établi sa propre liste de séries cultes en allant poser sa pêche après son troisième café de la matinée, qu'il faut la prendre pour argent comptant. Oui, Jean-Michel a peut-être une ou deux séries en commun avec toi qu'il affectionne tout particulièrement. Pourtant, Jean-Mi a peut-être des goûts de merde et il est possible que Prison Break soit dans sa liste. Mais quelle déception, Jean-Michel! J'attendais mieux de ta part, merde.
Oh, je suis déçu.
Bref, je pense que tu as saisi mon propos. Tes séries ne sont pas les mêmes que celles de Jean-Michel, que celles de ton voisin, du boulanger, du boucher ou que les miennes. Elles ne sont pas pour autant moins bonnes ou meilleures. Elles sont uniquement celles qui te plaisent et te font vibrer. Pour revenir au sujet de ce chapitre, je veux te parler de deux séries qui ont pris fin et qui, dans une certaine mesure, me manqueront. Petit aparté concernant les trois séries susmentionnées. Mayans MC, j'ai déjà fait une petite critique que tu trouveras sur le site de la crypto-série. Mais en substance, malgré quelques longueurs et des personnages assez saoulants, la série s'est achevée d'une bien belle manière. The Crown ne fait pas partie des séries que j'ai suivies, il me sera donc très difficile d'en parler, mais apparemment, la série vaut vraiment le coup. Quant à Fear the Walking Dead, j'avais stoppé la série au cours de la première saison. Elle ne réussissait pas à me convaincre et sa grande sœur, The Walking Dead, avait déjà tendance à me taper sur les nerfs. Apparemment pourtant, Fear the Walking Dead a surpassé cette dernière. Mais ça, seuls les fans pourront en juger. La première série dont je veux te parler, il s'agit de Succession. Bien que n'étant pas dans mon top personnel, elle mérite sa place ici même. Je lui reconnais sans grande difficulté une qualité indéniable dans son écriture et dans son casting. La série regorge de petits moments délectables et mémorables, généralement en compagnie du duo Greg et Tom. Le tout saupoudré de dialogues piquants qui restent gravés dans l'esprit de n'importe quel téléspectateur. Et là, je pense à des répliques cinglantes du père Roy ou encore de son fils cadet, le détraqué sexuel notoire, le bien nommé Roman.
What do you think?
Me?
Uh-huh.
Well, it's difficult.
Oh, it's difficult. Oh, I'm sorry, buddy. Would you like a hand job and an Advil? Fuck off, then.
Oui, Succession a tout d'une grande série. Et cerise sur le gâteau, elle a su s'arrêter à temps. Elle tire sa révérence au bon moment et de bien belle manière, laissant derrière elle tout un parterre de fans. Je sens maintenant que tu as envie de savoir pourquoi je considère Succession seulement comme une simple bonne série sans aller jusqu'à l'encenser. Mon explication tient en deux points. Le premier, et certainement le plus problématique, est ce que j'appelle l'effet auberge espagnole, en lien avec le film de Clapiche. J'en avais déjà parlé pour la série The Wire, sur écoute en VF. Ce processus intervient quand ton entourage, les médias, les réseaux sociaux, te survendent quelque chose, en l'occurrence ici une série. Tout le monde te dit que c'est la série culte par excellence, que tu es has-been de ne pas la regarder, bref, que t'es une sous-merde de ne pas avoir vu cette série. A partir de là, tu comprends que tu passes sans doute à côté de quelque chose, mais aussi que tes copains sont des sacrés connards de te parler ainsi.
Espèce de salaud !
Une fois visionné, le résultat, seul toi peux le connaître. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'effet n'a pas été celui escompté. Succession m'a beaucoup plu, mais pas à la hauteur de ce qu'on m'avait vendu la série.
Vous êtes en train de me dire qu'il a menti, vous le traitez de menteur.
Ah oui, un menteur hors pair, mais avec bien d'autres défauts que celui-là.
Toute cette propagande a finalement desservi ma découverte de la série et mon visionnage. J'ai appelé ce phénomène l'effet auberge espagnole. Tout simplement, car j'avais découvert le film bien après tout le monde. Noyé dans les avis ultra positifs, je m'attendais à un très bon film. Résultat, j'ai détesté.
Et je vous le dis les mecs, c'est nul ! C'est nul ! C'est nul !
Je te rassure, et comme je l'ai expliqué plus tôt, la conclusion n'est pas aussi affreuse pour Succession. Néanmoins, si j'avais pu me prémunir de tous ces avis, mon visionnage aurait certainement été différent. L'autre point négatif de la série réside dans sa réalisation. Autant j'ai aimé la direction des acteurs et le scénario, autant la réalisation ne m'a pas convaincu un poil de cul. Ces zooms à répétition sur les acteurs dès qu'ils prennent la parole sont hyper maladroits. Il y avait probablement un effet recherché, un parti pris de la part du réal pour appuyer les propos du personnage, accentuer l'aspect tragique ou autre. Mais personnellement, ça avait plus le don de me faire décrocher de la série, tellement je trouvais ça mauvais. Et je n'ai pas d'autre mot. Ces zooms avant, brusques qui plus est, sont mauvais. C'est digne des vidéos de mon fils avec son appareil photo qui dit zoom. Mais lui, à l'inverse, je l'aime et c'est un putain de jouet son matériel. Ah bordel de merde, ils ont réussi à m'énerver alors que je parlais d'une série que j'apprécie en plus. Faites chier les gars. Allez, passons à la seconde série qui m'a marqué cette année. Il s'agit de Ted Lasso. À l'heure où je tiens le micro, la série n'a pas officiellement été annulée par Apple TV+. Et malgré tout l'amour que je porte pour cette série, j'espère de tout mon cœur qu'elle ne sera pas renouvelée. La saison 3 clôture parfaitement la série. Il serait donc inutile de repartir pour un tour avec Ted. Son personnage nous manquera, c'est certain, mais cette fin permet de rester sur une note positive. L'indigestion n'était pas encore présente, et il serait dommage de continuer la série, si ce n'est pour la gâcher. Tout ça parce que la plateforme n'a pas su s'arrêter à temps. On l'a trop souvent vu. Et je te renvoie d'ailleurs à l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. La seule suite que j'aimerais à l'univers de Ted Lasso serait un spin-off avec Roy Kent. En fait, n'importe quel spin-off finalement, avec un des personnages emblématiques de la série, que ce soit Kaylee, Nathan ou Coach. La faire perdurer de la sorte sur une ou deux saisons max, je signe de suite. Ted Lasso aura été durant les trois saisons qui la composent cette petite bouffée d'air frais, ce petit vent de bonheur et de bonne humeur apporté par ce panel de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Ils me manqueront, la série me manquera, et entre nous, cette série m'a enfin réconcilié avec le foot. Non, je déconne, j'en ai toujours rien à carrer de ce sport de merde. C'est pour dire la qualité de la série. Passons au deuxième chapitre, les annulations regrettables. Après avoir brossé un tableau des séries qui nous ont quittés en beauté en 2023, permets-moi maintenant de te présenter le côté obscur de la force, les séries qui ont été fauchées cruellement en plein vol. Tels de petits oisillons tout mignons prêts à tenter un départ pour un second vol, les ailes déployées et... Bam ! Une cartouche dans le nid, c'en est terminé. Dis-toi bien que chaque année, tels ces oisillons abattus en plein vol par des connards de chasseurs, des séries meurent, annulées prématurément par des chaînes de télévision, elles aussi sans cœur et certainement très avinées. À nous de leur rendre un dernier hommage. Revêtons notre tenue de deuil et accompagnons ces séries dans leur dernière demeure, la crypte. Évidemment, je ne vais pas parler de toutes les annulations précoces. J'ai autre chose à foutre et certaines d'entre elles ne m'intéressent pas. The Rookie Feds, peut-être ?
Parce que vous êtes taquin !
Mais il y a deux séries qui ont été annulées, un peu trop tôt à mon goût, en 2023. Pour la première, il s'agit de Mindhunter, une annulation que personne ne voulait. Quatre ans après la diffusion de sa saison 2, le couperet est enfin tombé. On a appris que Mindhunter n'aura pas de saison 3. On s'en doutait depuis longtemps, mais l'espoir était toujours présent. C'est officiel maintenant depuis début 2023. La série est abattue en plein vol et n'aura pas de suite. Je m'y attendais, mais cette annonce m'a fait l'effet d'une gifle. Ben oui, je voulais le revoir moi, mon petit Macron spécialiste des serial killers. Franchement, entre nous, Jonathan Groff et Emmanuel Macron, c'est la même personne, y a pas photo.
Ce sont pourtant des rongeurs l'un et l'autre, non ? Et à part la queue, ils sont très proches l'un de l'autre, n'est-ce pas ?
Alors Netflix, pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? La série était juste passionnante. C'est comme arracher un livre des mains d'un lecteur en plein milieu d'un chapitre palpitant. Le dernier qui m'a fait ça, il s'est pris mon étagère Billy dans la gueule.
Mais j'ai défoncé, ce con !
Mindhunter aurait clairement mérité une saison 3 pour achever dignement la série. Creuser un peu plus la psyché de ces tueurs en série, partager un peu plus le quotidien de Holden et Tench, et enfin développer l'arc autour du serial killer BTK. Il y avait de quoi faire, et assurément de quoi terminer en beauté, la série produite par David Fincher et Charlize Theron. News de dernière minute. L'acteur Holt McAlany, aka Bill Tench, aurait déclaré à la presse en ce début 2024 qu'il serait prêt à reprendre son rôle si Fincher donne son feu vert pour une saison 3. Eh bien tiens, on s'en doute. Et de préciser que ce dernier aurait des idées pour une suite, comme par hasard. Bon, alors c'est bien beau tout ça, mais si Netflix a annulé la série, c'est aussi car les audiences n'étaient pas au rendez-vous. La plateforme aux N rouges décidera-t-elle pour autant de miser à nouveau sur la série ? Ou une autre chaîne osera-t-elle prendre le flambeau ? On n'en sait rien, mais les blogs et les autres sites sur la toile se délectent de ce genre de non-information qui fait du clic. Donc laissons-les jacasser avec du vent et laissons l'avenir nous dire ce qu'il adviendra, bordel. Le putaclic, on n'en veut pas, en tout cas pas ici.
Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve, ça. Barrez-vous.
Passons à la seconde série. Il s'agit d'une comédie, Reboot.
We're definitely on the lookout for breakthrough shows. So, what do you got?
I want to reboot the old sitcom Step Right Up.
Sans être la comédie du siècle, Reboot apportait une bouffée d'air frais parmi la flopée des séries comiques. Il faut dire que le concept de départ est plutôt sympa. Ces dernières années, les séries connaissent des reboots et autres revivals à tour de bras. Reboot parle de cela en proposant une intrigue autour d'une série des années 2000 qui est relancée par une chaîne plus de 20 ans après. La série permet ainsi de voir les coulisses de la création d'une sitcom, le tout avec beaucoup d'autodérision. Je la conseille vivement, il n'y a qu'une saison et elle est dispo sur Disney+. Passons au chapitre 3, les séries qui s'arrêtent enfin, qui, selon moi, ont eu une durée de vie bien trop longue. Parmi celles-ci, certaines auraient pu tirer leur épingle du jeu, mais malgré des débuts prometteurs, elles ont fini par perdre leur éclat et leur originalité. J'ai choisi de te parler de deux d'entre elles, Big Sky et Snowpiercer. Pour la première, il s'agit donc de Big Sky, une sorte de soap policier.
They say Montana is like no place on Earth. People come here to relax, unwind, or even just disappear.
Elle a attiré tout d'abord mon attention pour de mauvaises raisons. Enfin, surtout pour une raison, Catherine Winnick, aka Lagertha dans Vikings.
Elle est méchamment bonne, elle. Des fois, avec ma cousine Kimberly, on faisait semblant qu'elle était Lagertha et moi Ragnar, et après on se...
Stop, 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 je ne veux pas savoir. Si tu me racontes encore une fois des histoires de cul de consanguin, je te promets que la prochaine étagère Billy, elle sera pour ta tronche, mec.
T'as bien compris.
Donc, outre sa plastique, j'avais tout simplement apprécié Catherine Winnick comme comédienne dans Vikings. Il faut croire que cette dernière avait quelque chose à raconter, en tout cas certainement plus que Big Sky, qui préfère zoomer sur le joli minois de Catherine ou sur son jean ultra moulant. La série enchaîne également des mauvais choix avec une intrigue vue et revue aussi captivante que de regarder un Mr. Freeze fondre en plein hiver.
Qu'est-ce que tu me racontes là ?
T'as déjà essayé ? Non ? Eh bien dis-toi que c'est long et chiant, tout comme Big Sky. Et que dire des personnages ? Mais rien. Ils prennent des décisions toutes plus débiles les unes que les autres et manquent clairement de jugeote et de charisme. Il ne reste plus qu'à mélanger le tout pour obtenir une série qui sombre dans le mélodrame et le quasi-soap-opéra. L'intrigue devient de plus en plus prévisible, avec des rebondissements pathétiques et des moments dramatiques sans aucune saveur. Le tout saupoudré de personnages caricaturaux et tu te retrouves avec une belle série de merde.
Et voilà le travail !
Au final, il aura fallu 3 saisons pour mettre un terme à cette anomalie sérielle. C'est bien trop long. Un téléfilm diffusé un dimanche après-midi sur M6 aurait largement suffi. Passons à Snowpiercer. Et comme dirait l'autre, avec Snowpiercer, c'est vous qui voyez. Comme la plupart des séries post-apocalyptiques, elle a commencé avec une idée plutôt bonne. Des humains confinés dans un train en mouvement perpétuel, luttant pour leur survie. Le tout enrobé d'un discours politique sur la lutte des classes. Ok, sur le papier, ça s'annonce plutôt pas mal. A noter que cette dystopie est une adaptation tirée initialement d'une bande dessinée française des années 80, Le Transpersonnage. Il s'en est suivi un film coréen réalisé en 2013 par l'excellent Bong Joon-ho. Ce mec a quand même réalisé Memories of Murder, The Host et Parasite, 3 excellents films. N'ayant pas lu la bande dessinée, il me sera difficile de dire si la série est fidèle à l'œuvre originale. Concernant le film, le décalage ne me semblait pas très flagrant de prime abord. Cependant, l'idée d'étendre une telle histoire sur plusieurs épisodes, voire saisons, me semblait audacieuse. Et là, ça n'a pas loupé.
Ah bah c'était sûr ça, c'était sûr.
Au lieu d'explorer les dynamiques complexes de cette société en vase clos, la série a choisi de se concentrer sur des histoires secondaires insignifiantes, perdant ainsi beaucoup de son potentiel. Elle est tombée dans l'écueil de bon nombre d'autres séries dont le récit prend ses bases sur un concept fort. Et je pense à des séries comme Jericho, The Event, La Brea, Persons Unknown, Containment ou encore Under the Dome.
De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde.
Honnêtement, l'histoire du petit Kevin qui a perdu son doudou lors d'une bagarre dans les wagons ou autre lieu important de la fiction, on s'en branle. Il est préférable de faire avancer le scénario principal et de laisser de côté ces intrigues inintéressantes qui n'ajoutent pas grand-chose à l'histoire. En conclusion, Snowpiercer est l'exemple parfait de série qui a perdu de vue son objectif initial et s'est perdu sur les rails. Avant de créer la série, il aurait fallu écouter Régis.
Ah ouais, y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes hein.
Passons à présent aux séries coup de cœur de 2023. Cette année a été l'occasion de découvrir, comme d'habitude, de nouvelles séries. Et parmi celles-ci, j'ai eu de véritables coups de cœur que j'ai envie de te partager. N'hésite pas d'ailleurs à venir me partager les tiens dans la partie commentaires sur le site ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Pour la première série dont j'ai envie de te parler, il s'agit de Lessons in Chemistry. Voici son synopsis. Wham, re-bop, boom, bam. Dans les années 60, Elizabeth est une brillante scientifique qui, après avoir été exclue de son programme de doctorat en chimie, trouve une nouvelle voie en tant qu'animatrice d'une émission culinaire pour une télévision locale. L'occasion pour elle de poursuivre d'une manière détournée sa passion pour les sciences tout en distillant des messages féministes. Lessons in Chemistry a été mon gros coup de cœur de la fin d'année. La série est un véritable hymne à l'émancipation féminine et à la lutte pour l'égalité. Sans vouloir en faire trop, elle vaporise ici et là des messages forts et des valeurs importantes qu'il est bon d'entendre encore plus à l'heure actuelle. Portée par une Brie Larson remarquable et un casting qui ne démérite pas, Lessons in Chemistry navigue avec aisance entre la comédie, le drame et la fable sociale. Une série incontournable que je recommande chaleureusement. Elle sert d'exemple parfait à montrer à tous, y compris et surtout à tous ces gros machos, pour leur démontrer que le talent n'a pas de genre. Il n'est jamais trop tard pour éduquer un gros débile dont la testostérone a pris possession intégralement de sa boîte crânienne. Et n'oublions pas non plus la progéniture de cette énergumène qui mérite elle aussi une ouverture d'esprit.
Bon, alors, la petite crise est terminée.
On se calme.
Je me calme. Plus sérieusement, la série est idéale pour sensibiliser les enfants aux questions d'égalité de genre dès le plus jeune âge. Effectivement, la capacité de Lessons in Chemistry à traiter du sujet sérieux avec légèreté et humour la rend accessible à tous les publics. Alors n'hésite pas une seconde, la série est à voir absolument. C'est une leçon de vie emballée dans une belle histoire captivante, un véritable joyau de la télévision. Pour la série numéro 2, j'ai envie de parler de Polar Park. Voici son synopsis. David Rousseau, écrivain de polar en panne d'inspiration, se rend à Mout, le village le plus froid de France, après avoir reçu une invitation mystérieuse. Dès son arrivée, la petite ville est frappée par un meurtre à la mise en scène déroutante. C'est le début d'une enquête pour le policier Louveteau et l'espoir d'une inspiration pour un nouveau roman pour David. Polar Park n'est peut-être pas la série qui m'a le plus marqué cette année, mais pour changer, j'ai envie de te parler d'une série française. Car nous aussi, nous savons écrire des histoires et proposer des séries de qualité quand on veut. Il n'y a pas que des séries comme AB Productions ou RIS Police Scientifique. Tu vois, je sais mettre aussi un peu d'eau dans mon vin et reconnaître que les fictions françaises peuvent avoir un intérêt.
Vive la République ! Vive la France !
D'emblée, ce qui m'a séduit dans Polar Park, c'est son atmosphère énigmatique qui émane de cette modeste bourgade, évoquant subtilement l'univers de Twin Peaks. Alors, la comparaison avec l'œuvre du grand maître Lynch s'arrête là. Il reste que Polar Park réussit à sa manière à rendre la ville de Mout fascinante, faisant de celle-ci un élément central de l'intrigue, tout comme l'a fait Lynch avec Twin Peaks. Un autre atout majeur de Polar Park réside dans ses personnages excentriques et attachants. Jean-Paul Rouve se distingue particulièrement, tandis que Guillaume Gouix, incarnant Louveteau, et Soliane Moissé dans le rôle de Nikki, livrent également de très bonnes performances. Le seul bémol concerne la prestation d'India Air, a.k.a. Aurélie Poulidor, que je n'ai pas trouvée très convaincante. Son jeu exagéré peut déconcerter. Il s'agit probablement d'une décision délibérée dans l'écriture du personnage, visant très certainement à accentuer son mystère et son décalage. Mais cela m'a assez perturbé pendant mon visionnage et du coup m'a fait décrocher à quelques moments.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais.
En conclusion, l'humour décalé, les personnages en couleur et les situations absurdes font de Polar Park une série à part dans le paysage audiovisuel français. N'hésite pas à aller la regarder, elle est dispo sur Arte TV. Enfin, la troisième série dont je veux te parler, il s'agit de Silo. Voici son synopsis. Dans un futur proche, la population est forcée de vivre dans des silos souterrains à la suite d'une catastrophe. La série est adaptée du roman éponyme de l'auteur américain Hugh Howey. Il s'agit encore une fois d'une dystopie, mais cette fois d'une bonne dystopie. Dans Silo, la représentation de la gestion de la vie en communauté se distingue par son réalisme et sa complexité, offrant une étude profonde des dynamiques humaines dans un contexte extrême. Les tensions inhérentes et les luttes de pouvoir sont habilement mises en scène, ce qui rend la série captivante et vraiment intense. De plus, la série aborde avec intelligence la notion de manipulation des masses et comment des pouvoirs en place influencent la perception des individus. Des qualités notables et inhérentes qu'il est important de retrouver dans une œuvre de science-fiction. Silo, ici, marche clairement dans les traces d'œuvres cultes comme 1984 de George Orwell, Ubique de Philip K. Dick ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Trois romans que je te conseille vivement de lire. Silo se démarque également par la qualité de sa production, offrant une réalisation impeccable et des performances d'acteurs et d'actrices convaincantes, ajoutant ainsi à l'immersion dans l'univers sombre et oppressant du Silo. En somme, Silo est LA série de science-fiction de 2023, alors fonce!
Je finis mon café et j'y vais.
Bon, j'en ai fini sur mes quelques coups de cœur, tu peux en retrouver d'autres sur mes réseaux sociaux, j'en ai partagé d'autres. Mais comme tu peux t'en douter, 2023 a également réservé quelques déceptions. Alors je vais m'arrêter là, je ne vais pas les détailler ici, parce que sinon cet épisode va être beaucoup trop long, mais sache que sur TikTok et Instagram, j'ai partagé cette liste de déceptions, et donc ainsi que tous mes coups de cœur de l'année. Mais avant de conclure, j'aimerais aborder quelque chose. 2023 ne déroge pas à la règle, et comme chaque année, de nombreux acteurs et actrices nous ont quittés. L'un des décès les plus notables est certainement celui de Matthew Perry, l'ex-star de Friends. Avec son rôle culte de Chandler Bing, il restera à jamais dans la mémoire de nombreux et nombreuses fans. Cet épisode sur le bilan 2023 des séries télé s'achève ici. Il s'agissait, encore une fois, de mon point de vue, de mon retour personnel. Quel est le tien ? Est-ce que certaines séries vont te manquer ? Est-ce que certaines annulations étaient méritées ? Viens me faire part de ton bilan de l'année. Rendez-vous pour ça dans la partie commentaires sur le site CryptoSérie ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok, X et dernièrement, je me suis mis sur Thread. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te souhaite évidemment une excellente année 2024. J'espère qu'elle t'apportera à toi et à tes proches tout ce que tu souhaites. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous.